Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial.
Vers l'infini et au-delà!
Au départ, il y a des atomes qui forment des molécules de plus en plus complexes, et puis soudain, ces molécules se referment, séparent l'intérieur de l'extérieur et se répliquent. Qu'est-ce qui a présidé à l'apparition de la vie? Et puis après tout, c'est quoi la vie? Qu'est-ce que le vivant? Comment apparaît-il? Comment persiste-t-il? Est-il unique à notre planète ou un processus banal courant dans l'univers? Quelles sont les conditions propices à son émergence et à sa prolifération? Entrons ensemble dans l'infiniment vivant. Et pour remonter aux origines de toute existence, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Ludovic Julien. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de chimie à Sorbonne Université à l'École Normale Supérieure et Dominique Dunon-Bluteau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de biologie cellulaire du développement à Sorbonne Université et directeur des opérations scientifiques de l'Agence Nationale de la Recherche. Mais commençons par la question, celle qui traverse l'esprit humain depuis ses origines. Qu'est-ce que la vie ?
La condition préalable d'une réponse sensée serait de connaître sous quelle forme, sous quelles conditions la vie est apparue à la surface du globe terrestre.
Le savons-nous ?
Nous ne le savons pas.
Nous avons une idée néanmoins des matériaux que la vie a utilisés et des conditions ambiantes dans lesquelles elle a fait son apparition.
Oui, la vie telle que nous la concevons, telle que nous la constatons à la surface de la Terre. Mais il y a un fait qui est très troublant. À l'heure actuelle, la vie se perpétue. Elle se perpétue dans les plantes, elle se perpétue dans les animalcules, elle se perpétue à travers l'homme. Mais des formes nouvelles de vie n'apparaissent pas. Nous voyons donc que l'apparition de la vie a exigé une réunion de facteurs favorables, une conjonction de conditions physico-chimiques extraordinaires. Et malheureusement, nous n'avons pas une idée claire, ni de ces facteurs, ni de ces conditions.
Le zoologiste Pierre-Paul Grasse, en 1952, dans le roman de la science sur la radiodiffusion française, alors messieurs, cette grande et vaste question, qu'est-ce que c'est la vie, Ludovic Julien ?
Alors, d'abord, il faut être heureux, contrairement à ce qui vient d'être dit, que nous ne sachions pas tout. Ça donne un horizon. Donc, la vie, pour moi, qui suis un physico-chimiste, c'est un processus d'évolution de la matière, donc de la matière initialement sur Terre, et qui a réussi à faire que dans des conditions initiales de monde inerte, on arrive à construire finalement par des assemblages assez délicats des formes d'organisation de la matière dotées de propriétés étonnantes qu'on appelle des êtres vivants. Et il est clair que pour un chimiste, il y a une distance importante entre l'organisation de la matière telle qu'on la pratique couramment en tant que chimiste et ce qu'est un être vivant. Donc il y a un certain nombre de propriétés qui sont associées à ces êtres vivants. Le fait de ne pas être mort, qui peut sembler être quelque chose d'évident, mais qui ne l'est pas dans les faits vu du point de vue du chimiste. Le fait qu'il y a besoin de s'alimenter à la fois en énergie, en nourriture de manière générale, donc tout un tas de propriétés, et puis l'évolution simplement en soi qui est une propriété qu'on formalise mal pour l'instant en tant que physico-chimiste. Donc voilà, c'est tout cet ensemble à nouveau d'organisations qui nous fascinent et qui fournissent des horizons à la fois de réflexion et de recherche aujourd'hui pour les chimistes.
Quelle serait votre définition à vous, Dominique Dunon-Bluteau, de la vie ?
Ah, une définition.
La vie, je pense qu'aujourd'hui, à la surface du globe, il y a 300 définitions de la vie différentes, suivant le point de vue d'où on se place. Donc, difficile d'avoir une définition unifiée, elle n'existe pas aujourd'hui. Donc, effectivement, les trois propriétés essentielles du vivant, je vais reprendre un peu ce qu'a dit Ludovic, il y a le besoin d'énergie, comment on passe de l'inanimé à l'animé, c'est la différence entre le mort et le vivant, je pense que c'est quelque chose de très important. Et là, l'énergie joue un rôle majeur. La deuxième chose, c'est l'auto-organisation d'édifices macromoléculaires, qui a déjà été un peu abordé. Et puis une troisième propriété, c'est la capacité des êtres vivants de se reproduire et de se multiplier. Ça, c'est une propriété assez unique. Et ces trois éléments donc, caractérisent la vie. Alors tout cela, bien sûr, en respectant les lois de la thermodynamique, de la chimie, de la physique, comme le disait Ludovic.
Quand on vous entend, néanmoins, on a l'impression que ces trois conditions, elles sont assez universelles. Pourquoi dites-vous aujourd'hui, Dominique Dunon-Buteau, qu'il n'y a pas de définition unifiée ou consensuelle de la vie ?
Les philosophes, par exemple, voient la vie de façon différente. Ils vont définir la vie de l'individu. Donc pour eux, qu'est-ce que la vie ? Ça va être la vie de l'individu, ça va être les différents âges d'un individu. Donc, pour prendre un exemple. Mais on n'arrive pas à avoir quelque chose d'entièrement consolidé pour pouvoir définir la vie. Le passage de l'inanimé à l'animé n'est pas si facile que cela à réaliser. On en parlera peut-être plus tard, mais par exemple, essayer de l'extérieur, sur une autre planète, essayer de détecter s'il y a de la vie, est-ce qu'on aurait des indicateurs pour le détecter ? C'est pas si simple que ça. Donc, juste, voilà. Donc, c'est difficile de définir ce qui est animé par rapport à l'inanimé quand on est à une grande distance.
Et puis, Ludovic Julien, il y a des zones grises. Autant on peut s'accorder à dire que les organismes unicellulaires comme les bactéries ou les archées sont vivants, mais par exemple se pose la question des virus. Les virus sont-ils dans le registre du vivant ou non ? Il leur manque une partie de ces trois définitions, ou de ces trois piliers de définition que vous avez donné l'un et l'autre. Et pourtant, on suppose aujourd'hui, l'une des hypothèses serait que les virus sont à l'origine du vivant.
Alors, le questionnement, effectivement, dont a parlé Dominique sur la définition du vivant nécessite de définir l'entité dont on parle. D'une certaine manière, un virus, de manière isolée, comme un petit assemblage de molécules, est mort, on va dire. Même s'il peut présenter un écart à une forme d'organisation, on va dire, qui serait plus stable que ce qu'il est. C'est un objet déjà extrêmement sophistiqué.
Mort, mais pas inerte, par exemple.
Alors, Il est mort et inerte d'une certaine manière quand il est tout seul. À partir du moment où on l'intègre dans une vision plus systémique, qui est celle, à mon avis, qui doit prévaloir dans le cadre des représentations du vivant, finalement, c'est un élément qui s'intègre dans un ensemble, et cet ensemble, finalement, peut être qualifié de vivant à une certaine échelle de description. Donc, du coup, effectivement, la transition entre l'inerte et le vivant et les représentations qu'on a du vivant, il faut voir qu'elles ont aussi évolué considérablement au cours de l'histoire des sciences. Et elles reflètent aussi l'évolution de la connaissance qu'on a dans des champs disciplinaires. Donc, du coup, il y a un déport continuel qui fait que la stabilisation d'une définition dont parlait Dominique est rendue délicate indépendamment de la complexité du problème lui-même, du point de vue théorique, on va dire.
Dominique Dunon-Buteau, sur cette question, et notamment sur la classification des virus.
Alors, les virus, ils appartiennent au monde vivant. Ce ne sont pas des êtres vivants à proprement parler, comme le disait Ludovic. On est bien d'accord là-dessus. Malgré tout, ce sont les objets biologiques les plus abondants de la planète. Il y a des virosphères spécifiques pour les archées, les bactéries, les eucaryotes. Et en plus, d'un point de vue évolutif, ils jouent un rôle majeur. Dans nos génomes, nos propres génomes, il reste des traces de génomes viraux qui contribuent à l'évolution. Donc, ce sont des éléments du monde vivant absolument essentiels, en dehors de conduire à des pathologies, des pandémies, etc. Ils jouent un rôle important dans l'évolution du vivant et dans le monde vivant. Mais ce ne sont pas à proprement parler des êtres vivants, parce qu'effectivement, ils sont incapables tout seuls d'assurer leur reproduction.
Je vous entends depuis quelques minutes, messieurs, parler indistinctement de la vie et du vivant. Est-ce que, Ludovic Julien, on peut superposer totalement ces deux termes et leurs acceptions ?
Alors, je ne sais pas à nouveau s'il y a une définition, on va dire, acceptée, mais pour moi, la distinction est assez claire. Le vivant est qualifié par rapport aux propriétés que j'ai énoncées en début d'émission. Et la vie, c'est l'ensemble du processus d'évolution à l'échelle de la planète entière, et donc regroupant l'ensemble des formes de vie biologiques, telle que nous la connaissons. Donc c'est la manière avec laquelle moi je me suis fait une idée de la séparation entre vie et vivant. Processus donc au niveau de la vie et vivant comme le qualificatif d'un état.
France Culture, Nicolas Martin, Infiniment.
Nous explorons les limites du vivant et de son acception. Et une des premières choses passionnantes et assez contre-intuitive, Ludovic Julien, quand on pense au vivant, on pense à l'extrême diversité, on pense à la biodiversité. D'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Mais si on se place d'un point de vue stricto sensu chimique, il y a en fait très peu de diversité dans le vivant.
Eh oui. Il y a très peu de diversité dans le vivant, donc ça fait partie à nouveau de cette dualité, unicité et diversité du vivant dans laquelle j'ai été baigné au cours de mes études. Et maintenant que je suis aux échelles, on va dire, moléculaires, aux échelles de la réactivité, c'est très surprenant en fait de s'apercevoir qu'il y a finalement une faible diversité au niveau métabolique, au niveau des biomolécules qui sont présentes. Et ça pose évidemment une question très profonde qui est de savoir dans quelle mesure le vivant est associé de manière, on va dire, unique avec ses formes d'organisation de la matière, ou bien dans quelle mesure la forme d'organisation actuelle a été tellement, on va dire, triomphante vis-à-vis d'autres formes plus primitives au cours de l'évolution moléculaire, que c'est elle qui finalement existe aujourd'hui. Donc on est, et ce sont des questions sur lesquelles peut-être on reviendra avec des problématiques de vie sur des exoplanètes, cette question-là est très très importante, de savoir finalement pourquoi aujourd'hui on a une si faible diversité, bon, malgré la diversité métabolique sur les archées, sur les bactéries, etc., mais néanmoins qui reste assez réduite par rapport à la diversité, on va dire, des manifestations biologiques des êtres vivants. Bon,
C'est-à-dire qu'en fait, tout le vivant est constitué à partir de 4 nucléotides qui composent l'ADN et eux, ou presque seulement eux, si on ajoute le nucléotide différent de l'ARN, c'est-à-dire 5 grandes molécules, quoi.
Oui, le répertoire, on va dire, des briques élémentaires est limité, et au-delà des briques elles-mêmes, la manière avec laquelle elles réagissent les unes avec les autres, le métabolisme pour extraire de l'énergie des milieux, les mécanismes fondamentaux sont en nombre réduit, pour des raisons à nouveau de complexité, entre autres d'opérations, si on pense à la photosynthèse, et on a des raisons de penser qu'elles ne sont apparues qu'une fois au cours de l'histoire.
Dominique Dunon-Bluteau, est-ce qu'on peut imaginer que dans les tout premiers instants d'apparition de la vie, il y ait pu avoir, comme vient de le sous-entendre Ludovic Julien, d'autres formes d'organisation du vivant qui ont totalement disparu, dont nous n'avons pas de traces, mais qui auraient effectivement été balayées parce que moins efficaces que celles qui président aujourd'hui à l'ensemble du registre du vivant sur notre planète ?
Bien, oui, effectivement, les modèles actuels, c'est effectivement qu'il y a eu probablement des tentatives diverses d'aboutir à la genèse de la vie, mais qu'au bout du compte, au niveau de la planète, on a eu une organisation qui a eu du succès et qui a complètement évacué les autres. C'est le modèle que l'on a aujourd'hui. D'ailleurs, pour l'ensemble des espèces vivantes, on considère qu'on a un ancêtre commun. Et que c'est à partir de cet ancêtre commun qui résume tous les mécanismes fondamentaux de la vie cellulaire. À partir de ce modèle-là, on a généré toute la biodiversité qu'on voit aujourd'hui. Donc effectivement, c'est le modèle devant lequel on est. On n'a pas les preuves, comme vous le disiez, qu'on a eu d'autres tentatives, d'autres façons de fonctionner. L'avantage aussi quand même d'avoir un ancêtre commun, c'est qu'une certaine, comme on parle beaucoup de l'interopérabilité des données, on peut considérer aussi que le monde vivant est interopérable, c'est-à-dire qu'effectivement, dans les chaînes alimentaires, les êtres vivants mangent d'autres êtres vivants, donc on récupère finalement les mêmes molécules, on a la même organisation, donc la vie en tant que telle est assez unifiée, et c'est ce qui permet aussi sa dynamique.
Cet ancêtre commun, c'est ce qu'on appelle LUCA, Last Universal Common Ancestor, Ludovic Julien.
Alors oui, c'est ce que les biologistes considèrent comme étant finalement le point zéro, mais qui représente pour les chimistes un point oméga, au sens où c'est déjà toute une aventure de passer, on va dire, d'un monde inerte à ce LUCA tel qu'il a été finalement conceptualisé par les biologistes. Mais pour nous, c'est déjà une forme extrêmement élaborée d'organisation de la matière.
Et cette conception donc du vivant, ce modèle terrestre qui est pour l'heure le seul que nous connaissons, eh bien cette conception a évolué au cours des années, et notamment sur la question de savoir s'il est possible, envisageable, de trouver d'autres formes de vie. À quoi ressemblerait-elle à l'échelle, pour commencer, de notre système solaire? Eh bien, écoutez l'évolution, en tout cas, de cette idée, de cette conception dans cette archive qui date de 1971.
Est-ce que vous pensez que la vie telle qu'elle a pu se développer sur la Terre est un phénomène éminemment rarissime et qu'il a fallu bien des coïncidences favorables pour qu'elle s'élève jusqu'à ce niveau d'une vie pensante?
Oh non, je pense que c'est une loi de la nature que quand les conditions initiales sont réunies comme elles l'ont été sur la Terre, la vie apparaît et tend vers des formes de plus en plus complexifiées et de plus en plus intelligentes. Et c'est une question de temps, mais certainement la vie est répandue à profusion dans l'univers, seulement dans l'univers autour des autres étoiles, pas sur les planètes du système solaire, la Terre exceptée. Maintenant, on en sait suffisamment sur les planètes du système solaire pour être en mesure de dire que la vie n'existe probablement que sur la Terre. Peut-être certaines formes vivantes sur Mars, c'est extrêmement douteux. Mais enfin, il semblerait bien jusqu'à présent que dans le système solaire, seule la Terre soit habitée. En revanche, alors, il y a certainement des millions de planètes qui sont habitées par des formes de vie autour des autres soleils, car on sait que les autres soleils ont des planètes. Et justement, ça fait partie des derniers chapitres de l'ouvrage dont il est question ici. Ces questions sont discutées, sont étudiées. La pluralité des mondes habités est un fait qui est maintenant acquis.
L'astrophysicien Pierre Guérin dans Interactualité en mars 1971. C'est une idée qui a beaucoup évolué, savoir si la vie était finalement extrêmement courante, était un fait extrêmement banal, ou au contraire un fait extrêmement rare. Quelle est aujourd'hui la position de la communauté scientifique sur cette question, si tant est qu'elle soit elle-même unifiée, Ludovic Julien?
C'est toujours très difficile de répondre à cette question. J'aurais envie, en tant que physico-chimiste, de répondre que l'organisation du vivant pourrait être un phénomène banal dans le contexte, on va dire, de l'univers. Néanmoins, c'est une question délicate du point de vue, on va dire, de la chimie, d'imaginer que, finalement, la probabilité de l'émergence de vie dans des conditions physico-chimiques données est importante. Ce que j'ajouterais par rapport à la présentation là qui vient d'être faite, disons le reportage, c'est que si je prends Encelade par exemple, qui est un satellite de Saturne, de mémoire, ou de Jupiter,
de Saturne.
Donc il y a pas mal d'astrophysiciens, de personnes en climatologie qui réfléchissent en se disant a priori les conditions pourraient être réunies pour observer des formes de vie. Et la question ensuite des signatures du vivant dont parlait tout à l'heure Dominique se pose dans la mesure où aujourd'hui tout se construit sur le vivant biologique terrestre alors que les conditions physico-chimiques sont évidemment assez différentes.
Dominique Dunon-Buteau, quelle est votre idée, votre conviction personnelle sur cette question de la banalité ou la rareté de l'apparition de la vie?
Premièrement, rien ne s'oppose au plan conceptuel à ce que la vie puisse exister ailleurs. On peut très bien envisager que ça soit développé ailleurs. Je pense que, en dehors du système solaire, la découverte des exoplanètes, en ce qui concerne, effectivement, si on essaye de trouver des planètes dans lesquelles des vies un peu comparable à ce qu'on a sur Terre se développe, la découverte de ces exoplanètes renforce cette probabilité potentielle. Maintenant, la probabilité est certainement très faible que la vie apparaisse, et une des difficultés ne sera pas nécessairement que la vie apparaisse quelque part, mais est-ce que nous, au niveau de la Terre, on sera capable de la rencontrer ou de la détecter ailleurs, pas uniquement sur des points pour des raisons de capacité de détection ou d'analyse ou si on a du vivant ou pas, mais également en termes de probabilité temporelle, c'est-à-dire que les images astronomiques nous viennent d'époques très 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 différentes, et donc il faut avoir une conjonction temporelle entre l'apparition de la vie ou l'existence de la vie sur une planète donnée et le fait qu'on soit capable de détecter ces images et effectivement détecter la vie. Donc la probabilité de rencontrer une vie extraterrestre est compliquée par l'espace-temps en général.
On va rester un petit peu sur notre planète pour aller se pencher sur les endroits où la vie prolifère. On va interroger cette notion de biodiversité mise à mal, comme vous le savez, récemment par l'activité humaine. Et puis on va continuer à penser, à imaginer que cette vie que l'on pense foisonnante peut également se développer dans des endroits qui sont pourtant particulièrement inhospitaliers.
First snow, first winter of my life. I was told it was the height of me. The first dance, well, the first one that counted, felt like my blood was built from crackling lights. All this ancient wildness that we don't understand. The first sound of a heartbeat to riots roaring on. This is not love you've had before. This is something. This is something else. This is not the same as other days. This is something else. This is something else.
Life on Earth de Snow Patrol dans Infiniment, puisque c'est le vivant que nous explorons tout au long de cette heure en compagnie de Dominique Dunon-Bluteau, qui est professeur de biologie cellulaire du développement à Sorbonne Université et directeur des opérations scientifiques à l'Agence Nationale de la Recherche, et Ludovic Julien, professeur de chimie à Sorbonne Université à l'École Normale Supérieure. Comme nous le disions il y a quelques secondes, qu'elle soit un phénomène courant ou au contraire un hasard statistiquement extrêmement rare, toujours est-il que la vie se développe sur notre planète depuis près de 4 milliards d'années, depuis très peu de temps, une petite quarantaine d'années seulement. La préservation du vivant est incarnée dans un mot, biodiversité.
La pire tragédie de notre temps se déroule sous nos yeux, partout dans le monde, de façon à peine perceptible au quotidien. Il s'agit de la perte des milieux sauvages de notre planète et de la biodiversité. Le monde vivant est une merveille aussi unique que spectaculaire. Il est constitué de milliards d'individus appartenant à des milliards d'espèces de plantes et d'animaux, d'une variété et d'une richesse éblouissantes. Ensemble, ils s'allient pour bénéficier de l'énergie du soleil et des minéraux de la Terre. C'est l'étroitesse de leurs liens qui assure la pérennité de toutes les espèces. Nous dépendons entièrement de ce système pour nous maintenir en vie. Et lui dépend pour son bon fonctionnement de la biodiversité. Pourtant, la façon dont nous, humains, vivons aujourd'hui sur Terre fait reculer la biodiversité.
Extrait du film Une vie sur notre planète, inspiré du livre du même nom par David Attenborough. C'est un concept, je le disais, très récent. La biodiversité, le terme a été créé en 1980 par le biologiste américain Thomas Lovejoy. Alors là aussi, je vais vous demander, Dominique Dunon-Buteau, un petit effort de définition. Qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qui est regroupé par cette appellation biodiversité ?
Biodiversité, c'est effectivement le nombre d'espèces qui existent globalement à la surface du globe. Et puis, dans les années, à l'horizon des années 2000, on a créé la notion de hotspot, de point chaud de biodiversité, comme des endroits, des espaces dans lesquels on a une diversité maximale de la vie, des modes de, des espèces totalement différentes. Et on considère que cette biodiversité est d'une très grande richesse et qu'il faut la préserver à la surface du globe. Ce que je voudrais revenir, c'est d'un point de vue historique, un petit peu d'un point de vue de l'histoire de la vie, c'est qu'en fait, les épanouissements de biodiversité ont été divers et variés au cours du début, depuis le début de l'évolution, et qu'on n'est pas à une extinction, à la première extinction de biodiversité. On a eu, au cours de l'histoire, déjà 6 extinctions différentes. Une des plus importantes, à la fin de l'ère primaire, 90% des espèces disparaissent parce que les conditions de vie sont modifiées de façon importante à la surface du globe. La caractéristique principale du souci de la biodiversité aujourd'hui, c'est le fait que cette extinction est liée aux activités humaines, que nous sommes responsables, nous humains, de la disparition de la biodiversité. Mais il faut aussi compter que nous faisons partie de cette biodiversité. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire. Je n'ai pas envie de vous détailler l'ampleur de la biodiversité. Il y a des millions d'espèces. Mais c'est que cette biodiversité, tout au long de l'évolution, elle va être totalement différente. Au cours de l'évolution de la planète, l'histoire de la planète, ça va être totalement différent. Donc, on a perdu déjà beaucoup de biodiversité dans le passé, mais ça fait partie de la vie et de l'évolution. Les espèces sont adaptées à certains environnements. Lorsque leur environnement change, elles disparaissent et la vie est fluide, est une mosaïque et va donc évoluer en fonction des conditions qui lui sont offertes.
Six extinctions, si on comprend celle actuelle comme étant une extinction de masse. Un mot peut-être sur votre conception, votre regard sur cette notion de biodiversité, Ludovic Julien ?
Alors, mon regard, donc, tout à fait en accord avec ce qu'a dit Dominique, moi, quand même, ce qui m'impressionne, c'est l'aspect des échelles de temps. Dans la frise historique, quand on parle, par exemple, de cette extinction précambrienne, ça correspond à des extinctions sur des durées importantes. Et de fait, l'évolution biologique se manifeste, effectivement, mais à une échelle de temps qui est très clairement beaucoup plus grande que celle, on va dire, de l'ère industrielle humaine depuis le 19e siècle. Donc, du coup, c'est assez niveau-là que, à mon avis, le danger se manifeste principalement. Pour le reste, tout a été dit par Dominique.
Dominique Dunon-Buteau, vous évoquiez donc cette notion de hotspot, de point chaud de biodiversité, c'est-à-dire que, de facto, il y a des endroits qui sont plus propices à la prolifération et au développement du vivant. Selon les chiffres officiels, 2,3% de la surface de la Terre se constitue donc ces hotspots, donc c'est une toute petite fraction, mais dans ces 2,3% d'espace, eh bien, vivent quasiment la moitié des espèces vivantes recensées.
Oui, c'est exactement ça. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que dans ces hotspots, bon, il y en a une grande partie qui sont dans des zones tropicales parce qu'il fait chaud, il y a en général de l'eau, ça pousse, en gros, la vie pousse, se développe, se diversifie, se multiplie, etc. Mais c'est intéressant de voir également qu'il y a des hotspots qui sont dans des biotopes ou des environnements totalement différents, dans des environnements plus désertiques, et qui vont générer d'autres espèces. Donc ça fait aussi partie de la biodiversité et la capacité de la vie. Ce qui est important à retenir, à mon avis, sur la vie, c'est sa capacité à s'adapter à de nombreux environnements différents sous des formes différentes. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Même si on considère aujourd'hui que la vie est apparue dans les océans auprès des dorsales médio-océaniques, très clairement, la vie est née dans l'eau, la vie est sortie de l'eau, les espèces sont devenues aériennes, terrestres, on rencontre la vie presque partout aujourd'hui, il y a de la vie dans les nuages, il y a de la vie à 3 km sous terre, Il y a de la vie dans des espaces où les conditions acides ou basiques sont très impropres normalement à la vie. On peut vivre à 100, il y a des êtres vivants qui arrivent à se multiplier à 113 degrés. Il y en a d'autres qui arrivent à le faire à moins 12 degrés. Donc la vie s'est adaptée à plein de biotopes, à plein de conditions physico-chimiques et environnementales très différentes. Et c'est une très grande richesse.
On reviendra dans un instant sur ces lieux improbables de développement de la vie. Mais néanmoins, il y a quelque chose aussi, on parlait tout à l'heure de cette pensée contre-intuitive selon laquelle finalement le vivant est très peu divers. Il y a autre chose d'assez passionnant quand on regarde bien l'un de ces principes qui fondent le vivant, qui est l'évolution. Dominique Dunon-Buteau, c'est qu'on a tendance à penser que l'évolution est une force rationnelle, hein, puisque c'est le plus adapté ou le mieux adapté qui survit, c'est donc le plus efficace ou le plus raisonnable, en fait c'est complètement faux.
En ce qui concerne les processus de l'évolution, on est tous le résultat d'une histoire évolutive. Et donc on a subi nos génomes, la base finalement de ces phénomènes évolutifs, nos génomes ont vécu, ont évolué tout au long, pour arriver à l'individu que nous sommes, on subit des évolutions très importantes et on est le résultat de cette histoire.
Mais on a accumulé globalement tout vivant d'ailleurs, toute espèce vivante qui est arrivée aujourd'hui et qui n'est pas plus évoluée qu'une autre, hein, c'est le fruit d'autant, voire de plus de millions d'années d'évolution. Ça n'est pas du tout, ce que je veux dire c'est que l'efficacité n'est pas du tout en fait une force sélective et que nous avons accumulé plein de choses, plein d'évolutions qui sont parfaitement inutiles.
Vraisemblablement, mais qui nous permettent de vivre dans les conditions actuelles, dans les conditions qui nous sont offertes actuellement. Et effectivement, ce que vous dites est juste, parce que quand on parle de fossiles vivants, c'est impropre, parce que si ces êtres vivants sont aujourd'hui vivants, ils ont subi probablement le même, ils auraient pu subir le même type de processus évolutif. Visiblement, ça n'a probablement pas beaucoup changé, mais ils ont vécu la même chose, ce même processus est appliqué à eux pendant la période où ils ont survécu entre les moments où on rencontre ces fossiles et qu'on rencontre aujourd'hui les espèces, la même espèce vivante, ils ont subi les mêmes phénomènes que nous.
Un mot encore, Dominique Dunon-Buteau, sur cette biodiversité. Nous avons recensé aujourd'hui environ 2 millions d'espèces qui sont décrites. On estime qu'on est très largement en dessous de la réalité du nombre d'espèces vivantes présentes sur Terre. On n'en a vraiment qu'un aperçu, un fragment assez faible.
Oui, c'est particulièrement vrai pour les bactéries. C'est clair qu'aujourd'hui, à la surface du globe, on ne va pas retrouver une espèce de mammifère aussi importante que le rhinocéros ou le mammouth. On les aurait déjà identifiés si elles existaient. Par contre, en ce qui concerne la microbiologie, c'est vraiment une matière noire de la biologie. Actuellement, on considère que 85% des espèces vivantes sont inconnues. Et 60% des bactéries de la planète sont marines et 95% sont inconnues. Donc là, on a un champ d'investigation, en biologie notamment, extrêmement large.
Alors, pour revenir sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, sur cette idée qu'effectivement, il y a des zones plus propices à la prolifération de la vie que d'autres, ce qui est intéressant, Ludovic Julien, c'est qu'on voit que il y a cette expression qui dit « la vie trouve son chemin »,« life finds its way », et que la vie peut se développer, et même, c'est certainement même à commencer à se développer, dans des endroits qui sont pourtant chimiquement très inhospitaliers.
Alors, je ne sais pas s'ils sont inhospitaliers dans la mesure où
ça a marché,
c'est développé. C'est vrai que vu du point de vue à nouveau, des conditions de vie du biologique au jour d'aujourd'hui manifestent. Bon, il fait beau aujourd'hui à Paris, la température est agréable. On peut considérer quand on se situe soit à l'intérieur d'un volcan, soit au niveau d'une montée hydrothermale sur un rift océanique, que ce sont des conditions problématiques, que ce soit en termes de température, plusieurs centaines de degrés, en termes de pression, en termes de conditions physico-chimiques, d'acidité ou au contraire de basicité, de présence d'éléments qui peuvent apparaître toxiques, etc. etc.
D'absence de lumière, par ailleurs.
D'absence de lumière. Et ça pose effectivement donc la question de savoir quelles sont les conditions physico-chimiques et les territoires correspondants propices à l'émergence du vivant tel qu'on l'a défini ou tenté de l'approcher au tout début de l'émission. Donc l'idée, c'est d'avoir de l'énergie et de la matière. Il faut donc absolument ces sources. Donc dans une perspective historique, il faut avoir a priori plutôt des milieux assez hétérogènes, c'est-à-dire avec par exemple des différences de pH, des différences de température, des différences de ce qu'on appelle le potentiel d'oxydoréduction, pour être capable de mettre en route en fait des cycles qui sont des proto-métabolismes en quelque sorte, qui vont réussir à accélérer les phénomènes d'évolution chimique finalement de ces systèmes et la propagation finalement de ces cycles, leur couplage avec des technologies qui reposent sur la catalyse aujourd'hui dite enzymatique, qui sont des phénomènes, des transitions qu'on a du mal à conceptualiser aujourd'hui, de la même manière que la compartimentalisation aujourd'hui avec des membranes biologiques, peut-être originellement dans des matériaux poreux. Tout cela donc est encore pas totalement, disons, défini au niveau de nos représentations, mais voilà, il faut donc ces sources d'énergie, il faut ensuite la capacité à se construire et à se maintenir en extrayant l'énergie des milieux. Juste en passant, la lumière, c'est quelque chose de très difficile, en fait, à capturer, et on le voit d'ailleurs avec le développement scientifique autour d'approches pour utiliser l'énergie solaire. Donc, la question de savoir dans quelle mesure, justement, l'utilisation, on va dire, de la lumière ou l'utilisation de ces gradients a été, on va dire, le premier au cours de l'évolution, continue à être un sujet débattu du point de vue moléculaire. À mon avis, là, clairement, l'exploitation de l'énergie dans les gradients est plus simple, on va dire chimiquement, que la conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique, qui est une opération qui reste très très complexe.
Oui. Un mot là-dessus, Dominique Dunon-Buteau, vous évoquiez d'ailleurs vous-même, alors on parle des sources hydrothermales, vous évoquiez la vie dans les nuages, on ne pensait pas que les nuages puissent abriter la vie. Aujourd'hui on sait qu'il y a une population de micro-organismes d'ailleurs relativement importante. Toutes ces informations-là, elles sont relativement récentes dans l'histoire des sciences, ça a quand même largement étendu notre conception de ce que peut être et où peut apparaître la vie, y compris dans ces milieux a priori inhospitaliers.
Oui, ben c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce que je voudrais quand même justement ajouter par rapport à ce qui vient d'être dit sur les gradients, la notion les sources d'énergie, etc. Tout cela nécessite l'eau. Je pense que quand même il y a un élément majeur, c'est que sans eau, il n'y a pas de vie. Ensuite, et c'est là que je pense que c'est pour ça que je parlais de niches ou de biotopes différents, la sortie de l'eau est quelque chose de compliqué pour la vie, c'est-à-dire qu'il faut reproduire un milieu intérieur qui permette d'avoir de l'eau pour réaliser toutes les réactions qui sont essentielles à la vie. Et donc, il faut se protéger de l'extérieur, de l'air, pour pouvoir maintenir cette activité vitale. Donc ça, je pense que c'est aussi un élément important, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait un hasard si on a l'origine de la vie dans l'eau, et que la conquête d'autres espaces s'est révélée difficile pour la vie, et ça a vraiment nécessité des adaptations très très particulières, très spécifiques pour sortir du milieu aqueux. En ce qui concerne la vie aux extrêmes, effectivement, ensuite, on peut trouver des tas de biotopes ou des résistances à des situations très particulières, des êtres vivants, des bactéries qui peuvent résister à 3000 fois la tolérance animale en termes de radioactivité. On peut les retrouver dans des minerais à 3 km dans le sous-sol. On retrouve la vie vraiment dans des endroits sur lesquels on ne misait pas beaucoup. Et pour terminer, je crois aussi sur ce domaine, sur cette question, je crois aussi que nous, il ne faut pas oublier que l'espèce humaine fait partie de la vie. Et qu'aujourd'hui, on peut être aussi un vecteur de la vie. C'est-à-dire que quand on parle de la conquête de l'espace par l'homme, en fait, c'est la conquête de l'espace par la vie, parce qu'on emmène la vie avec nous. Donc, on va sortir, c'est finalement la station orbitale ou aller sur la Lune. En fait, c'est l'homme qui met le pied sur la Lune, mais finalement, c'est la vie. Alors après, pour le moment, on est tombé sur des environnements inhospitaliers, mais on peut considérer que cette conquête de l'espace, c'est peut-être aussi une façon d'envisager de disséminer la vie en dehors de la planète.
pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, Ludovic Julien, sur la difficulté d'utiliser la lumière, si on regarde la chronologie, la frise chronologique de l'apparition et de la dissémination de la vie à la surface de la planète, la photosynthèse anoxygénique, c'est-à-dire sans oxygène, c'est 3,7, 3,4 milliards d'années, donc ça arrive quand même malgré tout relativement vite, alors que la sortie de l'eau, comme l'évoquait à l'instant Dominique Dunon-Bluteau, c'est 480 millions d'années, c'est-à-dire que la sortie de l'eau a été encore plus difficile, peut-être plus complexe à mettre en œuvre que la photosynthèse à proprement parler.
Oui, mais je vais revenir sur les échelles de temps parce qu'il y a une différence fondamentale entre les échelles de temps de l'évolution biologique et ce qu'on pourrait appeler l'évolution moléculaire. Une transformation chimique lente, c'est 1 million d'années. Et ça, c'est très très lent. En général, on parle plutôt de transformation à l'échelle de la seconde, à l'échelle de la minute. Donc du coup, de ce point de vue-là, c'est très très difficile, on va dire, d'arriver à se dire, finalement, photosynthèse en premier, ou bien conversion d'énergie dans une voie d'utilisation de nourriture, on va dire, donc pas d'autotrophes, l'hétérotrophie. Pour moi, c'est difficile d'avoir une discussion à ce niveau-là et de resituer, on va dire, une chronologie. Nous, le point de vue qu'on aurait, il est plutôt sur la complexité des transformations chimiques. À quel point c'est difficile de convertir de la lumière en énergie chimique? Eh bien, il y a une raison fondamentale qui est liée à ce que la durée de vie des états, on va dire, excités en règle générale, c'est de l'ordre de la nanoseconde. Et qu'en une nanoseconde, on ne fait pas de chimie, et qu'il a fallu une évolution moléculaire incroyable pour faire de la photosynthèse, par exemple. Donc, il y a des opérations élémentaires beaucoup plus complexes que d'autres, et c'est plutôt ça qui nous guide, on va dire, dans la construction d'une frise chronologique en physico-chimie. Et c'est pour ça, par exemple, que je serais moins tranché que Dominique sur la question de l'eau, parce que la problématique, à nouveau, d'arriver à synthétiser un polymère, qui est un préalable, certainement, à la catalyse comme phénomène, eh bien, peut se réaliser dans d'autres conditions que l'eau, par exemple.
Eh bien, c'est un passage de témoin magnifique pour cette dernière question, puisqu'on arrive déjà à la fin de cette émission. On l'a dit, le vivant est extrêmement peu divers. On connaît les briques du vivant telles qu'elles sont celles que nous avons sous les yeux ici sur Terre. Est-ce qu'il est facile, est-ce qu'il est complexe d'imaginer en biologie cellulaire, en physico-chimie, une vie qui ne soit pas construite sur les bases de celles que nous connaissons, ou est-ce que c'est vraiment de la spéculation aux frontières de la science-fiction ?
Non, moi j'y crois. C'est-à-dire que le répertoire, on va dire, des atomes et de la réactivité chimique, dans des conditions physico-chimiques qui ne sont pas celles rencontrées sur Terre, permet d'envisager, on va dire, non seulement des synthèses de briques, mais aussi l'organisation avec la formation de polymères et ensuite des phénomènes de compartimentalisation et d'évolution moléculaire, avec, disons, une manifestation qui ne soit pas celle de la biologie terrestre, telle qu'on la connaît. Avec quel niveau de complexité ? On n'en sait rien, mais en tout cas aujourd'hui, ce sont des choses qui sont expérimentées dans le cadre des laboratoires et qui, à mon avis, en tant qu'horizon pour les physico-chimistes et les chimistes, fournissent énormément de travail à venir d'une manière extrêmement riche et intéressante.
En un mot, ça veut dire une vie sur une base silicium à la place du carbone ?
Non. Après, je ne veux pas rentrer dans la question de savoir quel serait l'atome utilisé. Je dis simplement qu'il y a énormément de possibilités, y compris en chimie du carbone, exploitant d'autres molécules que celles qu'on connaît aujourd'hui.
Dominique Dunon-Bluteau, en quelques mots sur cette question, très rapidement, puisqu'on est à la fin de l'émission, malheureusement.
En quelques mots, ce que dit Ludovic, c'est une possibilité. C'est clair que les biologistes ont tellement à faire avec le vivant qui est aussi vaste et qu'on ne connaît pas encore complètement, qu'on a plus de mal à sortir de notre système de la chimie du carbone et des organisations actuelles. Mais théoriquement, c'est tout à fait envisageable.
La vie est là, elle est partout et malheureusement, elle n'est pas éternelle. C'est ce dont nous parlerons demain. Mais pour l'heure, merci beaucoup à tous les deux. Merci Ludovic Julien, merci Dominique Dunon-Bluteau d'être venu nous parler de cette prolifération et de l'infiniment vivant. Infiniment, c'est Mariam Ibrahim, Alexandre Morales, Olivier Bétard et Jordan Fuentes. Demain, pour le tout dernier épisode de cette saison 2 d'Infiniment, après avoir célébré la vie, tel Caron, je vous embarque pour traverser le Styx et explorer le royaume des défunts. Des fossiles humains les plus récents il y a 13 000 ans à ceux des dinosaures, des espèces éteintes jusqu'au tout premier fossile unicellulaire il y a plus de 3 milliards d'années, nous explorerons ensemble l'infiniment mort.